panorama économique.
Bonjour et bienvenue au panorama de l'économie congolaise sur Radio Okapi, à la présentation Agathe Mpona Elema et Paul Mayamba Matendo. Dans cette émission, nous revenons sur l'annonce par le gouvernement des reliquats de la paie des fonctionnaires par voie bancaire. Analyse et commentaires dans ce panorama. Les problèmes de route en RDC, nous y reviendrons également avec les agriculteurs du territoire de Lwilou qui sont incapables d'évacuer leur production faute de route de desserte. Mais aussi, à Kisangani, l'effondrement du pont Yasekwe occasionne un ralentissement de l'activité économique sur place. Dans notre rubrique matières premières, nous parlerons huile de palme avec les plantations et huileries du Congo PHC Boteka qui ont été réhabilitées par des investisseurs anglo-canadiens. Panorama économique, vous le savez, fait chaque week-end la rétrospective de l'actualité économique de la semaine avec analyse et commentaires d'un invité au studio. Et cette semaine, nous recevons le professeur Mathias Boabois Wakayembe. Il est directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. Il est avant tout professeur d'université. Il enseigne les finances publiques, le droit fiscal, le droit économique. Bonjour, professeur Boabois.
Bonjour, madame.
La technique est assurée, quant à elle, par Jean-Noël Mokondo. Tout de suite, les dossiers de la semaine.
Panorama économique, le dossier.
Premier dossier de la semaine, la bancarisation de la paie des fonctionnaires et agents de l'État a permis jusqu'ici de dégager des reliquats représentant plus d'un milliard de francs congolais. Paul Matendo.
Oui, Agathe, selon le ministre des Finances, la bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État est un processus qui n'est qu'à son début. Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances.
Ce qu'il faut d'abord dire, qu'il s'agit d'un effort. Toute la paie des fonctionnaires n'a pas été bancarisée. Nous sommes en train d'y aller étape après étape. À ce stade ici, effectivement, on a déjà réussi à dégager des reliquats assez importants, même si, comme je le disais, qu'on est encore au début du processus. Au jour d'aujourd'hui, les reliquats représentent un peu plus d'un milliard de francs congolais. Donc, les fonds que nous avions envoyés dans les banques au titre du paiement des rémunérations des fonctionnaires et agents du service public de l'État, mais qui n'auraient pas été payés et qui sont là depuis plusieurs mois, ça représente plus d'un milliard de francs congolais, ce qui n'est pas négligeable. Au cours des prochains jours, nous allons déjà essayer de savoir au stade actuel combien d'effectifs le système actuel a permis déjà d'identifier.
Et les reliquats de plus d'un milliard de francs congolais récupérés dans cette paie pourront engendrer des poursuites judiciaires.
C'est ce que nous a affirmé jeudi dernier le vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Moukoko Samba. On l'écoute au micro de Nadine Fula Simba.
S'il y a un reliquat, la première chose qui nous intéresse, nous, c'est de savoir pourquoi il y a le reliquat. S'il s'avère que c'était une simple erreur, qu'il y a une différence entre le montant liquidé et le montant payé, à ce moment-là, puis on constate qu'il y a une erreur, on reverse au compte général du trésor. Ça rentre dans la casserole de toute la nation et ça servira à autre chose. Mais si on a la preuve que c'était un fictif, ce fictif, je pense qu'il nous doit des comptes. Et lui et celui qui l'a créé, ils doivent des comptes à la nation. Parce que si un fictif est clairement identifié, nous aimerions savoir depuis quand il est fictif, comment il est devenu fictif et cet argent-là qu'il a touché de manière indue alors qu'il n'a pas rendu des services au pays, cet argent, on le doit au peuple congolais. Et donc, des poursuites judiciaires sont tout à fait évidentes dans ce cas.
Et voilà, nous retrouvons le professeur Mathias Boabois Wakayembe. C'est lui qui analyse et commente avec nous l'actualité économique. Professeur, comment est-ce possible qu'autant d'argent puisse être dégagé? Cela démontre une légèreté qui a prévalu dans le secteur depuis autant d'années.
Merci, madame. Je pense que effectivement, il peut s'agir d'une légèreté. Il peut s'agir, disons, des activités frauduleuses des personnes qui s'occupent de la préparation de la paie, mais il peut aussi s'agir de situations qui découlent du fait que le personnel de l'État, il est mouvant, la situation est mouvante, la situation est changeante. Il y a des personnes qui quittent la RDC pour aller s'installer à l'étranger, il y a des personnes qui quittent Kinshasa pour aller à l'intérieur, etc. Et donc, il y a la gestion du personnel fait ressortir des situations où tout est mouvant, tout est changeant. Donc, il est possible que la paie... je crois que de mois en mois, la paie n'est pas toujours la même chose. La paie
mais
change.
Mais un gap d'un milliard de francs, c'est quand même
oui,
beaucoup.
Oui, c'est ça. Ça, c'est beaucoup. Et je pense que le vice-premier ministre a raison de dire qu'ils vont chercher la cause de ces situations. Si c'est une situation frauduleuse, il a raison de dire qu'ils vont entamer des poursuites judiciaires contre des personnes qui seraient responsables de ça.
Professeur, comment procéder pour identifier justement les fictifs?
Identifier les fictifs, je crois que ça devrait se faire dans chaque service, dans chaque administration. Donc chaque directeur responsable de service devrait faire la liste de son personnel. Et chaque secrétaire général devrait chaque année faire la liste générale du personnel du ministère et la transmettre à la paie. À ce moment-là, on peut voir facilement comparer entre ce que le secrétaire général reconnaît et ce qui est sorti dans la paie pour savoir que voilà, tel et tel effectif.
Un audit de la paie donc est la bienvenue, mais on se demande, bon, ça c'est la situation de Kinshasa, le pays est vaste, c'est vrai que Kinshasa ça a le plus grand nombre de fonctionnaires, mais c'est pas fini, il y a encore les provinces. Est-ce que vous pensez que objectivement le gouvernement saura étendre cette bancarisation dans tout le pays?
Bon, je pense que le gouvernement saura étendre l'opération dans une bonne partie du pays. Et, par exemple.
Où il y a une absence.
Oui, il y a des banques. Il y a des banques, oui. Et là, dans les chefs-lieux, par exemple, des provinces, il y a des guichets de banques. Et je crois qu'une telle opération doit aller de pair avec des facilités qui seront accordées aux banques pour qu'elles puissent étendre leurs guichets dans plusieurs coins du territoire national. À ce moment-là, on pourra rencontrer la plupart des fonctionnaires qui sont dans des milieux assez éloignés.
Quelles facilités, par exemple, le gouvernement pourrait donner aux banques?
Bon, tout le monde sait que à un certain moment, il n'y avait que 3 ou 4 banques. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine. Il y en a d'autres qui voudraient venir. Et qu'il s'agit de facilités à caractère fiscal qui ont été octroyées à ces banques qui ont permis qu'elles puissent venir. Donc, chaque fois que pour aller dans des zones éloignées, dans des zones où il n'y a pas de demande solvable, il faut que le gouvernement puisse octroyer des facilités. Et se ramène toujours à des facilités d'ordre fiscal pour pouvoir impulser la situation.
Prenons à présent la route du Kasaï oriental, des produits agricoles du territoire de Luilou pourrissent faute d'évacuation.
Des tonnes de manioc et maïs produits dans la chefferie de Wikong à Mulundu ne peuvent pas être évacués et acheminés dans les centres de consommation suite à l'état défectueux de route. Les agriculteurs tendent la main aux décideurs pour la réfection de route de ces territoires. Emmanuel Elamejo Akabedi nous donne des détails.
Ce sont des centaines de tonnes de manioc principalement qui sont stockées depuis plusieurs mois à Wikong dans le territoire de Luilou. Leur évacuation vers Mbujimayi via Mweneditu pose problème. Toutes les routes de dessert agricoles sont totalement de la braille. L'ONG, Association des agriculteurs sans frontières, affirme avoir encadré des paysans qui aujourd'hui ne savent pas subvenir à d'autres besoins de la vie, car leurs produits ne sont pas vendus. Des camions mettent près d'une semaine pour parcourir dans la douleur une distance de 20 km. De Mbayamseng à Lubunzi, en passant par Kangala et Wikong, c'est le calvaire. Conséquence, la rentrée scolaire prochaine risque d'en pâtir pour les enfants des agriculteurs de Wikong. Pendant ces temps, le ministre de l'Agriculture et Développement Rural ainsi que son secrétaire général séjournent au Kasaï oriental. L'ont dit se pencher sur la question avec le nouveau programme de réhabilitation des routes de dessert agricoles. Signalons que Wikong, dans le territoire de Luilou, est aujourd'hui un important grenier agricole de la province du Kasaï oriental avec d'autres produits vivriers, maraîchers et de l'élevage. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Mbujimayi, Écho d'économie.
Merci Emmanuel Elamejiwa Kabedi. Professeur Bobwa, vous avez suivi ce reportage. Les Congolais des grands centres, des grandes villes voient de temps en temps des routes en train d'être réfectionnées, mais apparemment il y a des terroirs qui sont oubliés alors que très importants pour la desserte agricole.
Oui, merci beaucoup, madame. Je crois que la question des routes, c'est une question fondamentale pour une économie d'un pays. Et l'économie est en fait une activité qui consiste à produire dans un pays, à faire circuler et à amener le produit auprès des consommateurs. Et cela n'est possible que s'il y a des routes. Et je crois que notre système de transport, d'ailleurs, c'est un système multimodal, comme on dit. Il n'y a pas que les routes, il y a aussi les chemins de fer et puis le transport par avion ou bien par fleuve, etc. Mais dans le cas d'espèce, il s'agit de routes. Et s'il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'économie possible. Il n'y a pas de production possible, il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de consommation. Donc, construire des routes, c'est la charge des autorités, soit des autorités nationales, soit des autorités provinciales, ou bien autorités de communes, territoires. Dans le temps, les routes étaient faites par le système de cantonnage manuel. Donc, il y avait des houes et des pelles qui étaient données aux populations, et les populations étaient encadrées pour pouvoir faire le cantonnage. Je crois que il y a une responsabilité des autorités déjà à la base, de pouvoir encadrer la population pour l'amener à faire le cantonnage. Mais tout cela, bien sûr, demande de l'argent, et parce que ces gens qui vont faire le cantonnage, il faut les payer, etc. Donc c'est un problème, je crois, d'organisation, c'est un problème de mise en place, de dispatching des responsabilités entre les autorités nationales et les autorités de la base.
Oui, professeur, vous dirigez l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Est-ce que vous sentez un engouement des investisseurs dans le secteur des routes?
Bon, tout d'abord, l'engouement des investisseurs pour certains coins où il n'y a pas de route, je vous dirais non. Il y a très peu de gens qui voudraient aller dans des coins où il n'y a pas de route. Maintenant, l'engouement des investisseurs pour le secteur de route, oui, la situation a quand même changé par rapport à hier. Par exemple, aujourd'hui, nous avons beaucoup de sociétés qui sont installées dans le système de production de matériaux de construction.
Oui.
Ce qui n'était pas le cas. Donc, caillasse, briques, etc. Il y a une bonne dizaine de sociétés autour de Kinshasa qui font la production de matériaux de construction. Nous avons également agréé des sociétés qui sont des sociétés de construction, des entreprises de construction, qui amènent des équipements lourds, des tracteurs, des engins lourds pour avoir comme activité de pouvoir produire les routes. Mais des sociétés en ce qui concerne les routes, je crois que c'est une attribution première de l'État. Des sociétés qui iraient faire le commerce des routes, donc construire elles-mêmes des routes.
Pour les vendre au gouvernement, je ne sais
pour
pas.
Pour les vendre, ou bien pour les exploiter elles-mêmes, parce que effectivement, dans certains pays du Nord, aux États-Unis ou en Afrique du Sud, je pense, il y a des sociétés qui construisent des routes sur base du système qu'on appelle BOT, Bid Operating de Transfert, et qui construisent des routes, qui les exploitent pendant une période de 25 ou 30 ans, et qui les cèdent à l'État après 30 ans lorsqu'elles ont récupéré les fonds qu'elles avaient placés dans ce projet-là. Mais ça nécessite absolument un accord avec le gouvernement de ce pays-là. Et ça nécessite un cadre juridique, ce qu'on appelle la loi sur le partenariat public-privé, qui n'existe pas dans notre pays, et puis un accord avec le gouvernement pour pouvoir le faire. Et je crois que il y a déjà à ce sujet un accord qui a été trouvé par le gouvernement,
oui,
par le chef de l'État, avec certaines entreprises chinoises qui sont en train de construire les routes. Mais il faut dire que la tâche à réaliser est immense, et il faut dire aussi, en ce qui concerne les routes, qu'elles demandent un peu de temps pour être réalisées.
Restons donc dans ce domaine. 10 mois après l'effondrement du pont Yasekwe au point kilométrique 61, sur la route Kisangani-Yangambi, rien n'est fait.
C'est le point de vue de la société civile d'Isangui, présenté auprès d'une commission d'enquête parlementaire en séjour à Yangambi sur la gestion du district de Lachopo. Selon cette organisation, la coupure de ces ponts ralentit l'activité économique des territoires d'Isangui, Yaouma et Basoko, surtout en cette période de forte production agricole. Des détails avec Joseph Bassaï de la radio Bundiku.
10 à 7 pirogues attachées les unes aux autres, les tireurs avec cordes à la main dans les dérives, petits véhicules, motos, vélos, piétons en bousculade, c'est l'ambiance de chaque jour depuis novembre 2011 à la traversée du pont Yasekwe au point kilométrique 61, route Yangambi-Kisangani. Les radeaux sur cette rivière traversent seulement les petits véhicules à $50 américains. Moto à 1500 francs et 500 francs pour les autres catégories des passants. Selon la société civile d'Isangui, les tonnes de riz des territoires de Basoko, Yaouma et Isangui ne sont plus bien évacuées à Kisangani. Tous les produits doivent passer par les fleuves au risque de nombreux accidents, regrette Jérémy Imomola, président de cette organisation. Même point de vue à la Fédération des entreprises du Congo FEC Isangui. Pour cette organisation, la plupart des acheteurs de riz et de manioc sont découragés de fréquenter le territoire d'Isangui à cause de cette situation. La PEC se dit inquiète de voir les paysans traîner avec leur production sans acheteurs cette année, surtout pendant cette période. De son côté, la société civile demande au gouvernement provincial de réhabiliter ses ponts avant la fin de cette année. Isangi, Joseph Bateigla, Radio Bondeko, Radio Okapi.
Voilà, une autre situation des routes, un cri d'alarme de la société civile. Mais on n'a pas l'impression que le gouvernement se presse tellement dans le secteur. Il faut faire vite, les choses sont graves et les agriculteurs sont découragés, professeur. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je crois que le gouvernement, il a son attention sur cette question, mais comme je l'ai souligné, ça demande des budgets, ça demande des moyens. Et vous savez, on a laissé la situation dans notre pays se dégrader presque pendant 40 ans, 50 ans.
Oui.
Et lorsqu'on commence, on se décide à le faire, et ça va demander des milliards et des milliards de dollars pour être réalisé. Mais je crois qu'il y a des solutions qui devraient être trouvées quand même à la base. Je voudrais insister, parce que si on a dit qu'on met en place la décentralisation, c'est pour qu'il y ait des autorités à ce niveau-là qui peuvent s'occuper de ce genre de
choses. Au lieu que tout vienne du gouvernement central.
Parler toujours du gouvernement, non. Il y a quand même des gouvernements provinciaux et qui peuvent mobiliser la population,
mais
mobiliser
les intelligences. Mais qui n'ont pas de moyens, à qui on ne donne pas la rétrocession.
Avec le peu de moyens qu'ils ont quand même, ils peuvent amener des ingénieurs locaux à arranger un pont qui s'est effondré. Il ne faut pas toujours attendre que la manne tombe du ciel. Il faut aussi montrer la capacité à s'occuper des problèmes de proximité qui se posent.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les nouvelles économiques de la semaine en plus bref, le service des entreprises pétrolières congolaises SEP Congo va bientôt rouvrir son dépôt de Bumba dans la province de l'Équateur.
Ce dépôt était détruit et fermé pendant plusieurs années à cause de la guerre, mais il va pouvoir à nouveau desservir une partie du district d'Ela Mongala et du Nord Équateur, ainsi que les territoires des Bundu, Akiti, Buta, Basoko et Yauma dans la province orientale. C'est en prévision de cette reprise qu'une délégation nationale composée des ministres des hydrocarbures, du portefeuille du gouvernement central et de l'administrateur délégué général adjoint du CEP Congo a effectué samedi dernier un aller-retour à Bumba pour le lancement des travaux de réhabilitation. Déjà 500 tonnes de matériaux ont quitté Kinshasa à bord d'un bateau à destination de Bumba.
Dans le Katanga, plus de 25 tonnes de minerais de cuivre appartenant à l'entreprise minière Chemaf ont été volées mardi à Lubumbashi.
Selon la brigade minière et des hydrocarbures de la police au Katanga, le camion qui transportait ces minerais en provenance de la carrière de Kouloukoukou a été détourné à mi-chemin, puis abandonné dans la commune de la Kenya sans sa cargaison et son chauffeur porté disparu. Le commissaire supérieur de cette brigade rassure que les enquêtes sont en cours pour retrouver les voleurs. En attendant la suite de cette enquête, l'entreprise Chemaf annonce qu'une prime est réservée à tous élus qui va dénoncer les voleurs Agathe.
Panorama économique, matière première.
Les plantations et huileries du Congo PHC de Boteka dans le territoire d'Ingende commencent à reprendre leur activité comme par le passé. Avec 890 travailleurs, cette société réhabilite ces plantations qui étaient abandonnées, ce qui permet au PHC de produire actuellement mensuellement 100 tonnes d'huile de palme. Cette production est totalement vendue à la Marsafco à Kinshasa, une des sociétés sœurs de la multinationale groupe Unilever. Notre confrère Henri Lobondo-Bokelou était cette semaine à Boteka. Suivez.
Créée en 1912 sous la dénomination Plantation Les Verts au Congo, les PHC Boteka ont connu des difficultés de fonctionnement en 2008. Cette société qui utilisait une main-d'œuvre de plus de 2000 travailleurs a dû mettre en congé technique un bon nombre d'ouvriers. Avec ses 5500 hectares de palmeraies, les PHC produisaient 400 tonnes d'huile de palme par mois. Avec la crise, un groupe anglo-canadien dont le siège se trouve à Toronto a racheté 76,30% des actions des PHC. le gouvernement congolais bénéficie de 23% des actions. Selon Nicolas Matisseau, chef des centres PHC Boteka, la société emploie actuellement 890 travailleurs. Avec cette main-d'œuvre, constituée à 95% des pygmées, plusieurs hectares de la palmeraie sont en réhabilitation. Même la huilerie qui a été longtemps abandonnée est remise en service. La société est en train de rajeunir la palmeraie devenue vieille, plusieurs palmiers ayant dépassé 30 ans d'âge. La palmeraie réhabilitée produit actuellement 100 tonnes d'huile de palme par mois, une production qui est achetée par la société Marsavco pour la fabrication des produits tels que le savon, la margarine et l'huile végétale. La reprise des activités à l'usine de Boteka est un ouf de soulagement pour la population du territoire d'Ingéné qui retrouve du travail. Henri Lobondo-Bokelou, Mbandaka, Echo d'économie.
Nous retrouvons le professeur Mathias Boaboua Kayembe. Est-ce que ce reportage c'est quand même une bonne nouvelle de voir qu'une plantation est en train de renaître de ses cendres et que de travailleurs sont engagés? Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire?
Non, c'est une bonne nouvelle et parce que vous savez que nous Congolais nous avons fait du mal à notre pays. Vous savez, en 72-13, les anciens gouvernements avaient aryanisé tout ce qu'il y avait comme plantation de café, de cacao, d'huile de palme. Tout a été aryanisé, confié à des Congolais qui n'avaient ni expérience, ni moyens financiers, ni quoi que ce soit pour les gérer. Et donc c'est facile à détruire, mais c'est difficile à construire. Mais on sent quand même maintenant qu'il y a un engouement dans le chef de beaucoup d'opérateurs qui sont en train de chercher des plantations d'huile de palme ou bien de caoutchouc, etc. Et le problème qui se pose, c'est de pouvoir, au niveau du ministère de l'Agriculture, faire un recensement général de toutes ces plantations avec leur localisation.
Oui.
Et de telle sorte que nous puissions porter cette information à la disposition des investisseurs. Il y a beaucoup de gens qui voudraient entrer dans ce secteur-là, mais ce qui manque, ce sont des informations exactes sur les sites de production ou bien les voies d'accès à ces sites-là, etc. Il y a tout un travail d'information à faire pour que tout cela soit repris par des investisseurs.
Ce serait donc bienvenu une cartographie de toutes ces plantations, de ces sites à exploiter. Mais aussi, en tant que DG de l'ANAPI, est-ce que vous avez une idée de quels sont les secteurs en RDC qui suscitent le plus d'attraction pour les investisseurs? Et quels sont les secteurs les plus défavorisés?
Pour le moment, le secteur qui suscite beaucoup d'attraction, c'est le secteur minier. Mais à côté de ce secteur, il y a le secteur de l'immobilier, ou bien le secteur des industries diverses, ou bien des supermarchés, de la distribution. Mais je crois que le secteur le plus important qui peut nous permettre de créer beaucoup d'emplois, c'est le secteur de l'agriculture. Donc, si on peut faire un effort pour promouvoir ce secteur de l'agriculture, je crois qu'on pourrait créer beaucoup d'emplois, on pourrait réduire la pauvreté dans le pays, etc., etc. Donc on doit, j'ai été très heureux d'apprendre que le gouvernement, le Premier ministre Matata s'est engagé à investir de l'argent dans l'agriculture cette année ici. Et ça peut permettre finalement d'ouvrir ce secteur aux investisseurs étrangers et de relancer les choses.
Panorama économique, reportage.
À Kisangani, une nouvelle baleinière dénommée HB5 Chantier en marche a été mise à flot dimanche dernier. La cérémonie de coupure du ruban symbolique a été présidée par le gouverneur de province intérimaire ainsi que par les autorités fluviales et maritimes de la ville. Qu'est-ce qui a motivé la construction de cette baleinière? Toutes les dispositions sécuritaires sont-elles réunies pour l'exploitation de cette embarcation? Quels sont les villages, cités et villes en aval du fleuve Congo qui seront desservis? Un reportage de Godlive Omondo.
La randonnée inaugurale marquant le coup d'envoi du trafic de la baleinière HB5 Chantier en marche a eu lieu dimanche dernier. Selon le propriétaire, il a fallu 4 mois pour finaliser tous les travaux de construction exécutés par un expert boyomé. Toujours selon lui, cette baleinière, dont le coût total est estimé à plus de 30 000 dollars américains, est à même de transporter au moins 70 tonnes. Pour Emedi, communément appelé Papa 5 Chantier, son souci est de garantir le déplacement des personnes zones et aussi l'évacuation des marchandises et vivres qui attendent dans des villages, cités et villes en aval du fleuve Congo, faute de transport.
L'idée est de
Déjà ce mardi, cette baleinière accostée au beach Zimex enregistre des passagers pour son premier voyage prévu vendredi vers Bumba. Écoutons les avis des premiers passagers potentiels. Un contrôle technique a été fait par le commissaire fluvial. Ce dernier a donné son accord sur la mise à flot de l'engin. Écoutons Célestin Lissako, commissaire fluvial de Kisangani.
Quand une unité vient d'être terminée en construction, que nous, en tant que des experts, nous devons descendre sur terrain pour faire ce que nous appelons les travaux d'expertise. Et pour cette unité, donc, elle répond normalement aux conditions de navigabilité.
Sachez que cette baleinière pourrait desservir plusieurs autres villages, cités et même villes en aval du fleuve Congo, notamment Basoko et Mbandaka.
Et voilà, nous revenons dans ce studio. L'émission touche à sa fin. Est-ce que vous avez un dernier commentaire, surtout par rapport à la mise à flot de cette baleinière, l'exploitation fluviale, maritime?
Oui, j'ai dit ici, madame, que notre mode de transport est multimodal. Donc, il y a les routes, chemins de fer, et puis il y a le fleuve, qui fait plus de 4000 kilomètres, je crois. Nous devons apprendre à utiliser ce fleuve avant même de penser à construire des routes et tout ça. Ça, c'est vraiment une route naturelle que Dieu a doté, dont Dieu a doté le Congo. Donc, c'est toujours une bonne nouvelle et c'est toujours, ça fait mal lorsqu'on va à côté du fleuve, on voit qu'il n'y a pas de bateau qui passe. Il n'y a pas de bateau ou bien on est au chantier naval de Kinshasa, on voit que les grues sont à l'arrêt, tout est à l'arrêt, il n'y a pas de travail. Donc, ça montre qu'il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'esprit d'innovation, il n'y a pas de prise de risque, etc. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est demander à la population d'utiliser ce boulevard naturel que Dieu nous a donné, de pouvoir y travailler, faire la pêche, faire le transport, etc.
Oui, professeur, juste une petite question. J'ai cru entendre qu'il faut demander, solliciter l'intervention de Dieu. C'est vrai que Dieu nous a donné ces boulevards naturels, mais à entendre ce reportage, on a l'impression qu'on demande encore l'intervention de Dieu pour que nous puissions utiliser encore ce boulevard naturel. Vous trouvez ça normal?
C'est pas normal. Non, ce qui nous manque, c'est la foi en nous-mêmes. Et c'est peut-être l'amour de notre pays et la foi en nous-mêmes. Je crois que nous devons changer notre mentalité, commencer à aimer notre pays et nous dégourdir, faire des choses pour gagner de l'argent, parce que celui qui fait une baleinière comme ça, il va gagner de l'argent.
Mais si peut-être, professeur, il n'y a pas assez d'investisseurs là, c'est peut-être parce qu'aussi il y a beaucoup de tracasseries sur nos fleuves, il y a beaucoup de barrages, des militaires, des policiers, oui, tout le long du tronçon fluvial, et ça décourage les opérateurs du secteur.
Vous avez raison. Le climat des affaires dans tout cela est un élément crucial. Si le climat des affaires est mauvais, déjà s'il y a l'insécurité, vous voyez que les gens ne vont pas être motivés à amener leur baleinière là-bas ou à en construire. Donc, il faut qu'on puisse assainir totalement le climat des affaires pour voir la population se donner à contribution et y aller, quoi.
Et c'est sur ce commentaire du professeur Bob Wakayembe que prend fin le panorama économique de ce week-end. Merci, professeur. Vous avez été notre invité aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci, madame Agathe. Ça m'a fait plaisir.
Merci, Paul Matendo, de nous avoir accompagnés. Grand merci également à vous, Jean-Noël Mokondo, qui était à la technique. Le plus grand merci revient à vous, nos chers auditeurs qui nous ont suivis. L'économie au quotidien sur Radio Okapi, c'est dans Écho d'économie du lundi au vendredi à partir de 18h15 de Kinshasa. Pour Panorama économique, retrouvez un autre numéro samedi prochain à partir de 12h30. Mais d'ici là, passez un bon week-end en compagnie de la Radio de la Paix.